savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
Bonjour et bienvenue dans Tous les cinémas du monde qui se met cette semaine, une fois n'est pas coutume, à l'heure des séries avec la sortie de Vernon Subutex. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Vernon Subutex, adaptation de la trilogie à succès de Virginie Despentes qui sera diffusée donc sur Canal+ à partir de lundi. On parlera aussi dans cette émission du grand cinéaste burkinabé Pierre Yaméogo, disparu ce lundi. On partira aussi en Inde, où un biopic sur le Premier ministre Modi fait polémique. Et vous, Sophie, vous nous parlerez de Dumbo, sorti la semaine dernière sur les écrans français. Mais on commence ce tour du monde de la planète cinéma par un passage à la Cinémathèque de Paris et au cimetière du Montparnasse.
Oui, parce que c'est là que stars et anonymes, amis et admirateurs ont rendu un dernier hommage mardi dernier à la grande, l'immense cinéaste Agnès Varda.
Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers picotés par les blés, fouler l'herbe menue.
À la vie, elle avait dit pause.
On ne s'imagine pas qu'il peut y avoir de l'amour entre un gamin de 30 ans et une dame de 90 ans et on ne le voit pas venir.
Liberté, voilà. Le mot liberté est associé à Agnès Varda et c'est très important.
Voilà Catherine Deneuve, très émue, qui lit un poème de Rimbaud, Jane Birkin qui chante quelques notes. Le plasticien JR rappelle son amitié avec Agnès Varda et puis Hippolyte Girardot qui prononce ce mot-clé, liberté. Liberté, évidemment, c'est vraiment le mot cher à Agnès Varda.
Lui aussi était un grand réalisateur, toujours sur la brèche, prompt à dénoncer les injustices de ce monde dans ses films. Le Burkinabé, Pierre Yaméogo, Saint-Pierre Yaméogo, disait ses amis, est mort lundi dernier à 63 ans des suites d'une longue maladie.
Oui, et le cinéma a été la raison de vivre de Pierre Yaméogo. Dès ses débuts en 1987 avec Dounia, le jeune réalisateur, il a alors 22 ans, dénonce les effets néfastes de traditions rétrogrades et de croyances archaïques. En 1991, il réalise La fille, tout va bien, la course folle d'un étudiant burkinabé diplômé de médecine qui ne trouve pas de travail dans son pays et va devoir partir en France. Une fuite des cerveaux que voulait dénoncer Pierre Yaméogo, lui qui avait fait ses études aux États-Unis, mais était retourné vivre et travailler dans son pays.
Alors, parlons donc de La fille qui traite des problèmes des jeunes bacheliers qui viennent d'obtenir leur bac. Comme tout le monde, ils souhaitent faire un métier donné et ils n'ont pas cette ouverture de pouvoir faire ce métier. Alors, c'est un problème que j'ai vécu, que beaucoup ont vécu et que j'estime, comme ça ne change pas, qu'il serait intéressant, et n'est-ce pas, de poser des questions là-dessus et inviter les gens à en parler et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que les jeunes puissent au moins arriver à faire un métier qu'ils aiment, car vous savez, comme tout le monde, que quand on n'aime pas quelque chose, on n'a aucune motivation, n'est-ce pas, pour pouvoir le pratiquer. Et voilà, en gros, et sur ce, j'essaie d'introduire des notions de la vie quotidienne de la jeunesse, qui n'a pas que des problèmes, qui ont aussi une vie sentimentale, qui ont des joies et des peines, etc., etc. Et j'essaie aussi, en deuxième partie du film, de montrer que et les brillants étudiants qui viennent ou qui partent étudier en dehors de l'Afrique, ceux qui réussissent le mieux ne reviennent pas pour servir. Tout ça, ce sont des questions que je pose dans La fille. Et j'essaie aussi de montrer en tout cas la vie quotidienne de l'Afrique, notamment le Burkina Faso que je connais le mieux.
Voilà Pierre Yaméogo, lors d'une conférence de presse pour présenter son film La fille. Du court au long, du documentaire à la fiction, Pierre Yaméogo entendait exhorter les peuples africains à se prendre en charge.
«
En 2005, il fait un film sur le thème du viol et de l'inceste et lui donne pour titre Del Wende, ce qui veut dire « Lève-toi et marche » en moré. Del Wende qui a décroché le prix de l'espoir de la section Un certain regard du Festival de Cannes. Je vous propose de réécouter le reportage de Vincent Garrigue, envoyé spécial de RFI sur la croisette en 2005.
À la manière d'un petit poussé sahélien, Pierre Yaméogo avait pris soin, en quittant Cannes il y a quelques jours, de semer des centaines de t-shirts rouges labellisés Del Wende. Toutes les jolies filles de la côte se promènent donc avec dans le dos le slogan « Lève-toi et marche ». Revenu ce soir par le dernier avion de Paris, le Burkinabé peut savourer le bonheur d'une récompense cannoise pour un film qui s'apparente à un combat.
Del Wende, lève-toi et marche, ça veut dire qu'il y a un combat à mener, que les femmes doivent mener, parce qu'il y a une vieille tradition qui consiste à dire que il y a des femmes qui ont un pouvoir de manger des âmes. C'est des humains qui souffrent, c'est des vieilles femmes, c'est des personnes qui n'ont aucun pouvoir. Pour se défendre en réalité, je trouve que c'est assez facile de choisir les faibles pour accuser.
Le patron du FESPACO est également sur la croisette pour apprécier les dernières heures du festival. Baba Hama partage le bonheur de son compatriote et il nous rappelle que Del Wende n'était pas à l'affiche ouagalaise pour des raisons de calendrier de travail.
Disons qu'au moment où on le présentait, il n'était pas achevé et le réalisateur en conviendra, puisqu'après nous avons eu quand même des discussions très amicales là-dessus. Et je crois que le fait qu'il ait eu le temps de se présenter à Cannes lui a permis certainement de mieux peaufiner son film, de mieux l'achever, je crois, et c'est tant mieux.
Le triomphe de Del Wende, Lève-toi et marche, signé Pierre Yaméogo, récipiendaire en 2003 du prix RFI Cinéma du Public pour Moi et Mont Blanc. Vincent Garrigue, Cannes, RFI.
Voilà, Pierre Yaméogo qui avait eu à maintes reprises affaire à la censure. En 1998, son film S'il mandait, où il dénonçait violemment la mainmise des Libanais sur l'économie africaine. S'il mandait, donc, n'était pas sorti en Côte d'Ivoire. En revanche, il avait battu tous des records de fréquentation au Burkina Faso. En 2011, Bahiri racontait le drame des Burkinabés chassés de Côte d'Ivoire. C'était un film animé de colère qui n'avait pas été présenté au FESPACO, le grand festival panafricain de Ouagadougou. Pas pour des raisons de calendrier, cette fois, il n'avait pas été retenu. Il n'avait pas non plus été diffusé par Canal+, qu'il avait pourtant financé. Cinéaste engagé, courageux, plein d'humour, Pierre Yaméogo a cru jusqu'à la fin à la vertu du cinéma pour défendre le droit, pour faire changer les mentalités.
Que la terre lui soit légère, Pierre Yaméogo repose désormais au cimetière municipal de Gonguin au Burkina Faso. Maintenant, je vous propose de partir au Brésil, Sophie, pour parler d'un documentaire sur la dictature qui crée la polémique.
Oui, c'est un documentaire qui justifie le coup d'état militaire de 1964, intitulé 1964, le Brésil entre les armes et les livres. Ce film de plus de 2 heures défend la thèse selon laquelle la prise du pouvoir par les militaires et les 21 ans de dictature qui suivirent étaient en fait la conséquence d'une menace communiste.
Un sofrimento só se alivia quando você conta a história dele. E o nosso século XX foi um século de grandes sofrimentos.
Régime militar. Esse é um tema que suscita sensibilidades, porque remonta a narrativas sobre as quais se constroem as mitologias da política contemporânea.
Golpe contra golpe.
Ce documentaire brésilien a été projeté dimanche dernier dans des salles de cinéma louées à Sao Paulo, Brasilia et Belo Horizonte, à l'occasion justement du 55e anniversaire du coup d'état militaire. Mais le réseau de cinéma Cinemark a essuyé des centaines de protestations sur les réseaux sociaux et a prétexté une erreur de projection. Du coup, les auteurs du film l'ont mis sur YouTube, où il a enregistré depuis mercredi plus de 2 millions de vues. Le fils du président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, a assuré la promotion de ce film sur les réseaux sociaux. Alors rappelons une fois de plus, ou à toutes fins utiles, que pendant les 21 ans de régime militaire au Brésil, 434 assassinats ont été perpétrés, des centaines de détentions arbitraires ou de cas de torture d'opposants recensés par la Commission nationale de la vérité.
Et maintenant, cap sur la Tunisie, le sud tunisien où s'ouvre vendredi prochain le festival Gabès Cinémafen.
Oui, un festival qui repart de zéro et attire du beau monde, puisqu'on annonce des masterclass d'Abdelatif Kechiche, mais aussi du cinéaste égyptien Mohamed Diab. Ce festival de films d'auteur programme une cinquantaine de films, fiction et documentaires, courts et longs métrages, principalement venus du monde arabe. Et évidemment, c'est un festival qui fait la part belle au cinéma tunisien.
Et enfin, on s'envole pour l'Inde, Sophie, l'Inde où le cinéma garde, comme on sait, une place et une influence importante au sein de la société et constitue par conséquence un inévitable outil de propagande. Alors cela n'a pas échappé au parti nationaliste hindou, au pouvoir, sous le régime duquel sont sortis plusieurs films qui flattent sa politique. Le dernier en date est un biopic à la gloire du Premier ministre Narendra Modi, un biopic qui fait polémique. Antoine Guinard, vous êtes notre correspondant à New Delhi et donc ce biopic apparemment est au cœur de la polémique en ce moment même en Inde.
Oui, l'opposition s'active depuis plusieurs semaines pour repousser sa sortie au lendemain des législatives qui se déroulent en avril et mai prochains. Le Congrès, le principal parti d'opposition, a saisi la commission électorale, demandant à ce que ce film, simplement intitulé PM Narendra Modi, ne sorte en salle qu'après la phase finale du vote vers la mi-mai, et non le 5 avril, une semaine avant le début du scrutin. Plusieurs anciens hauts fonctionnaires se sont joints à cette requête. Ils affirment que ce biopic, qui retrace la vie du Premier ministre, interprété par la star un peu en perte de vitesse Vivek Oberoi, depuis son enfance jusqu'à sa conquête du pouvoir en 2014, enfreint le code de conduite de la commission électorale. Sa sortie juste avant les élections, disent-ils, influencera le scrutin de manière injuste.
Alors ce biopic apparaît en effet comme une arme de propagande évidente, mais apparemment ce n'est pas le seul à faire le jeu du parti au pouvoir, Antoine.
En effet, il y a déjà eu en janvier la sortie du film intitulé « Le Premier ministre accidentel », un biopic sur le prédécesseur de M. Modi, Manmohan Singh, à qui on a souvent reproché son manque de charisme. Il est dépeint dans ce film comme une marionnette aux mains des héritiers de la dynastie Nehru-Gandhi, qui, avant la victoire de Narendra Modi en 2014, avait dirigé l'Inde de manière quasi ininterrompue depuis l'indépendance. Ce film, dont le rôle principal est interprété par un vétéran de Bollywood réputé proche de l'extrême droite hindouiste, était une attaque peu subtile sur le parti du Congrès et la dynastie Gandhi. Un mois après sa sortie, un autre biopic, cette fois sur Rahul Gandhi, arrière-petit-fils de Nehru, considéré aujourd'hui comme le principal adversaire de M. Modi, a été annoncé par le biais d'une bande-annonce. Cette fois-ci, il s'agirait d'un portrait plutôt flatteur, une riposte donc aux attaques du parti au pouvoir dans cette guerre des images sur grand écran. Le film sur Rahul Gandhi est prévu de sortir le mois prochain, mais aucune date précise n'a pour l'instant été annoncée.
Alors, est-ce qu'il y a eu récemment d'autres films qui ont fait le jeu du parti nationaliste au pouvoir ?
Il y a eu le film Baltakere, sorti lui aussi en janvier, encore un biopic portant cette fois-ci le nom du mythique leader aujourd'hui décédé du Shiv Sena, un parti hindouiste d'extrême droite très influent à Bombay et allié au BJP pour les prochaines législatives. Tous ces biopics ont toutefois été reçus assez tièdement par le public indien. Le film Uri, sorti en décembre dernier, a lui eu un impact bien plus fort. Le réalisateur s'est inspiré d'une frappe chirurgicale en territoire pakistanais après un attentat contre une base militaire indienne en 2016. L'immense succès commercial d'Uri, boosté par la présence au casting de Vicky Kaushal, un des nouveaux jeunes premiers de Bollywood, a été récupéré habilement par Narendra Modi. On se rappelle que le 26 février dernier, l'armée indienne avait bombardé un camp d'entraînement d'un groupe terroriste au Pakistan, en représailles à un attentat suicide perpétré par ce même groupe terroriste contre l'armée indienne 2 semaines plus tôt au Cachemire. Cette opération militaire a suscité un regain d'intérêt pour Uri et le succès du film a à son tour amplifié le sentiment patriotique et guerrier au sein de la population indienne dont a parfaitement su tirer profit la droite nationaliste.
Merci Antoine Guinard. Pléthore de sorties cette semaine, un nouveau film de super-héros, bon c'était très attendu, ça s'appelle Shazam, une comédie aussi, oui une comédie sur le conflit israélo-palestinien, ça s'appelle Tel Aviv on Fire, hein, Tel Aviv en flamme. Quant au député cinéaste François Ruffin, lui il est parti filmer sur les ronds-points, filmer les gilets jaunes, ça s'appelle Je veux du soleil, il sera notre invité Sophie la semaine prochaine. Et vous allez revenir sur un film qui est sorti mercredi dernier sur les écrans, c'est le Dumbo de Tim Burton, alors joli début en France, hein, plus de 550 000 entrées, idem aux États-Unis avec un petit bémol. Dumbo de Tim Burton, on écoute la bande-annonce.
Welcome, baby Dumbo. We're all family here. No matter how small.
Oui, vous vous souvenez évidemment du classique de Disney, sorti en 1941, l'histoire du petit éléphant volant aux grands yeux bleus, séparé de sa maman. Vous savez que Disney dépoussière tous ses classiques animés en nouveaux films en prise de vue réelle, après moult effets spéciaux, après Cendrillon et Maléfique, ou encore La Belle et la Bête, le géant du divertissement a confié à Tim Burton le soin de réaliser Dumbo avec de véritables acteurs et un éléphanto de synthèse plus vrai que nature.
Tim Burton qui avait déjà commis Alice au Pays des Merveilles.
Hein. Oui, vous avez raison de dire commis. Hein. C'était en 2010, gros succès au box-office, mais piètre accueil critique pour ce film, débordant de couleurs et d'images de synthèse, manquant de féerie à vrai dire. C'est pourquoi moi j'appréhendais beaucoup ce Dumbo. Et pour finir, c'est une bonne surprise. D'abord parce qu'il y a de l'émotion et des personnages humains inventés pour cette version, des personnages très crédibles. Il y a Holt, alias Colin Farrell, l'ancien cavalier émérite du cirque, rentré manchot de la Première Guerre mondiale. Veuf, il ne sait pas vraiment communiquer avec ses deux enfants. Il y a le patron du cirque familial, Danny DeVito, qui va s'associer avec le méchant du film, joué par Michael Keaton, un entrepreneur sans scrupules à la tête d'un parc d'attractions démesuré. D'ailleurs, tiens, je vous parle de parc d'attractions, évidemment on pense à Disneyland, et c'est l'un des plaisirs du film que de voir Tim Burton détraquer ce qui ressemble donc à ce parc Disney. Et puis il y a une trapéziste française campée par Eva Green. C'est la troisième fois que la trentenaire joue sous la direction de Tim Burton. Elle a dû surmonter sa peur du vide pour assurer elle-même les cascades, et elle estime que ce Dumbo est fidèle à l'univers de Burton.
Moi, je trouve que c'est un film très burtonien parce qu'il y a déjà ce thème du marginal mal aimé parce qu'il est différent. Et il y a quelque chose qui va arriver. Et puis, le personnage va finir par embrasser sa particularité, son individualité. Et puis, il y a aussi la magie, l'humour, la tendresse, la sensibilité qui fait toujours partie d'un film de Tim Burton. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il parlait de Dumbo, on sentait qu'il s'identifiait complètement à Dumbo. Oui, c'est très, ça lui tient à cœur. Et Dumbo et Tim Burton et Edouard Romain d'Argent. Je pense que les gens vont être extrêmement émus quand on voit le personnage de Dumbo dans ce film. Il a ses yeux, en plus ses yeux bleus et ses longs cils comme ça.
Oh, Tim Burton n'a pas les yeux aussi bleus que ceux de l'éléphanto. Il les cache d'ailleurs toujours derrière des lunettes fumées, mais il confirme que Dumbo, c'est lui.
Well, this is my story, you know. This is a weird character that people.
Oh, mais c'est mon histoire. Un personnage étrange dont les gens se moquent. J'ai aussi commencé à travailler chez Disney, qui est une drôle de famille. Comme dans toutes les familles, il y a de bons et de mauvais côtés. Dumbo, en fait, c'est moi chez Disney, et c'est très bien.
So for me, Dumbo is me at Disney. You know, it's great.
Tim Burton qui réussit toujours finalement, Sophie, à garder sa liberté à Hollywood.
Oui, c'est vraiment un drôle d'oiseau. Hein. Mais quand on lui demande si c'est facile pour lui de financer ses films maintenant qu'il a tout ce succès, cette reconnaissance, eh bien Tim Burton répond que c'est une bataille recommencée à chaque nouveau projet.
I've always, from the beginning of my career, been a strange creature.
Depuis le début de ma carrière, j'ai toujours été une drôle de créature dans l'industrie du cinéma. J'essaye de faire des films aussi personnels que possible, tout en étant dans le système. Ça a toujours été une lutte. Mais tous les cinéastes, qu'ils aient ou non des gros budgets, font face aux mêmes problématiques. C'est toujours difficile de financer un film. La seule question que je me pose, c'est celle de ma liberté. Cela fait partie de la lutte, mais aussi du challenge de faire un film.
Voilà, Dumbo de Tim Burton, et puis on attend cet été deux nouvelles versions de classiques Disney, Aladdin avec Will Smith et Le Roi Lion avec de véritables félins.
Mais vous savez quoi, ça me fait vraiment envie, Sophie. Vous êtes sur RFI dans tous les cinémas du monde. Restez avec nous. Dans quelques minutes, nous parlerons de Vernon Subutex, la nouvelle série de Canal avec une bande-son de folie. Sonic Youth, New Order, Pony Hawks, Daniel Dark. Et puis ceci, Ring of Fire, réinterprété par le groupe Wall of Voodoo.
Fell into a ring of fire.
Bienvenue dans cette deuxième partie de Tous les cinémas du monde où viennent de nous rejoindre nos deux invités. Toutes deux sont à l'affiche de la série la plus attendue de la saison, Vernon Subutex, adaptation en 9 épisodes de la trilogie best-seller de Virginie Despentes. Bonjour Cathy Vernet.
Bonjour.
Vous êtes la scénariste et réalisatrice de Vernon Subutex. Et bonjour Céline Salette.
Bonjour.
Vous en êtes l'une des têtes d'affiche face à Vernon Subutex, Romain Duris. Vous jouez la hyène, une cyber-détective particulièrement coriace, hein, d'où son surnom, Vernon Subutex. 9 épisodes de 30 minutes à partir de lundi sur Canal+. C'est parti.
Je me souviens, on entrait dans le rock comme dans une cathédrale. On écoutait de la musique. C'était la dernière aventure du monde civilisé.
Vous êtes Monsieur Subutex Vernon, je vous demande de quitter les lieux.
Eh, hey, invitation backstage au concert d'Alice Beach ce soir. Ah là, vous êtes surpris.
Je suis pas à la rue. Ok.
La bande-annonce de Vernon Subutex, un ancien disquaire. De fait, il est à la rue. Il traîne sa nostalgie et sa dépression. Il cherche aventure et qui sait, vibration auprès de ceux qui ont partagé sa jeunesse dans les flamboyantes années 90. Son ami, la rockstar Alex Bleach, est mort d'une overdose. Il a laissé à Vernon 3 mystérieuses cassettes vidéo qui suscitent l'intérêt d'un producteur de cinéma qui vous charge, Céline Salette, de les récupérer à tout prix. C'est très romanesque, il y a beaucoup de rebondissements. C'est un peu les mystères de Paris 2.0, non?
Si vous le dites, oui. Je pense que c'est un peu comme ça que Cathy l'a écrit. Hein.
Ah ouais, cette référence en tête.
Inspirée par les mystères de Paris.
Mais c'est très romanesque. Vous avez pourtant dû tailler hein, dans la matière du roman de Virginie Despentes.
Ah oui, l'adaptation, c'est beaucoup de choix. Et j'ai taillé, j'ai coupé, j'ai remodelé. Mais l'intrigue de la hyène, en fait, est plutôt développée par rapport au roman. C'est pas l'intrigue qui a été le plus coupée, au contraire. Parce que, par exemple, son histoire d'amour avec Anaïs, dans le roman, c'est pas très long, c'est un chapitre. Tout y est, mais voilà, on l'a développé parce qu'on avait envie que cette enquête, qui est un peu un prétexte d'une intrigue avec des enjeux forts, etc. J'avais très envie que ce soit surtout une quête de séduction d'abord, puis vraiment une histoire d'amour avec toutes ces étapes. Et pour amener la hyène vers la rédemption, tout simplement.
Oh, la rédemption.
Oui, en toute sa blessure.
Qu'est-ce qui vous a accroché, vous, Céline, dans Vernon Subutex au début, au tout début?
Bah, tout un peu. Bah, d'abord, ce qui m'a accroché, c'est Cathy Vernet. Hein. Elle m'a chopée dans un bar dans le 19e. Je l'ai fait boire. Elle m'a fait boire. Et après, elle m'a dit, viens, tu vas jouer la hyène. Mais non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que c'est le cadeau initial. Il n'y a pas, il y a rien s'il n'y a pas un metteur en scène qui vous fait un cadeau. Cadeau d'un rôle. Donc,
mais vous aviez lu le roman déjà?
À ce moment-là, non, je ne l'avais pas lu. J'avais lu Apocalypse Bébé et j'avais déjà une grande fascination pour Despentes parce que je trouve que, par exemple, King Kong Theory, c'est un manifeste extraordinaire, sublime.
Un manifeste féministe.
Ouais, très, très marqué par ce livre. Mais j'étais passée à côté de Vernon parce que, je ne sais pas, à l'époque, j'étais persuadée que c'était un peu noir et tout. Je n'avais pas tellement envie. En fait, ce n'est pas si noir, hein.
Et comment Cathy Vernet, du coup, vous a présenté le projet pour vous donner envie d'y aller?
Bah après, il n'a pas fallu qu'elle développe beaucoup. Hein. Mais il y avait déjà, de toute façon, pas mal de très bons ingrédients dans la soupe. Il y avait, il y avait elle, déjà. Il y avait, non, mais c'est vrai, sa façon de parler du projet, d'envisager le tournage. Elle parlait déjà de la liberté dont on aurait besoin pour aller vite, choper des trucs, attraper une énergie qui est dans le roman et qu'elle avait envie qu'il soit dans le tournage. Donc voilà, après il y avait Romain, après il y avait plein d'autres.
Romain, c'est donc Romain Duris dans le rôle de Vernon Subutex. C'est une série qui porte le nom du personnage, on va dire, principal, mais Vernon Subutex, en fait, c'est un catalyseur. Est-ce que cette série... Ce roman, cette série, c'est le portrait d'une génération. Donc, on va dire, grosso modo, des quinquagénaires, enfin, quinquagénaires qui avaient 20 ans dans les années 90, qui n'ont pas fait la révolution, à l'inverse de leurs parents, hein, les 68ards, hein, et qui, c'est une sorte de génération un peu, je sais pas si c'est la génération X, comment vous la définissez, Cathy Vernet?
Ouais, oui, c'est la génération X, la génération oubliée, désenchantée. On lui accorde beaucoup d'adjectifs pas très positifs à cette génération dont je fais partie. Oui, bien sûr, c'est un miroir, hein, Vernon. C'est le reflet de cette société, de cette génération. Il n'y avait pas de programme politique, contrairement à ceux qui avaient fait 68. Et il y avait juste l'envie de vivre, je crois, de vivre ensemble, un truc ensemble. Et c'était les années donc 90, 95, rock, où chacun appartenait un peu à une tribu, à une bande. C'était structurant d'être soit punk, soit curiste, soit... Voilà, et on se mélangeait pas. On n'allait pas à un groupe on n'allait pas à un concert tous ensemble. On appartenait chacun à une tribu bien définie. Et après, il y a eu la culture de masse, en fait. Et ces sous-cultures se sont mixées et sont devenues une espèce de mélange qui est moins structurant et qui raconte moins cette espèce de d'utopie collective qui était forte à cette époque. De façon de vivre ensemble, heureux, un peu en marge du système, avec un pas de côté. Et là, aujourd'hui, cette génération... vieilli. Donc, quand on se retourne sur sa vie, un peu, hein, qu'est-ce que je suis devenu? J'ai trahi mes idéaux de jeunesse, j'ai pas fait de révolution. J'ai fait comme j'ai pu, je me suis débattue.
Je me suis embourgeoisée.
Oui, pour certains. D'autres, non. Ils ont bossé ou ils sont victimes de violences économiques très dures. Ils sont déçus en amour, je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, ils se sont battus comme ils pouvaient. Mais il y a un espèce de constat qu'ils ont pas forcément. Voilà, lever le poing et combattu pour être fidèle à leurs idéaux. Mais c'est propre à cette génération, mais à toutes les autres. En ça, c'est universel. Hein, qu'est-ce que c'est que de vieillir? Est-ce que c'est possible de le faire sans se trahir?
Il paraît que vous avez mis 4 ans à écrire le scénario, c'est vrai?
J'ai eu 4 ans à faire toute la série. Donc il y a eu 3 ans d'écriture et 1 an après de tournage, post-production, enfin prépa, tournage. Donc en tout, 4 ans. Ouais.
Et le plus dur, c'était quoi?
C'était l'écriture. C'était l'adaptation.
Et il y avait aussi l'idée de rendre la bande-son des années 90 sans être dans une espèce d'effet catalogue, j'imagine.
Ouais, ça a été... on a eu la chance d'avoir un gros budget, ce qui est très rare pour une série française.
C'est combien?
C'est 7 fois plus qu'une série normale. C'était... voilà.
Donc, le budget d'achat
la musique
droits, hein,
comme un personnage à part entière. 350 000, si vous voulez un chiffre.
De budget musique?
Ouais, budget musique.
Pas mal.
Pas mal, hein. Et il y a, je crois, 39 morceaux. Enfin, je voudrais pas dire de bêtises, mais il y en a beaucoup. Et en fait, on a tout de suite décidé, avec la production, de mettre un gros budget. C'est comme quand on fait un polar, on met un gros budget dans la construction du commissariat. Là, c'est un disquaire. Il fallait qu'il y ait la musique achetée, des morceaux connus, moins connus, pour raconter. Voilà.
C'est la cathédrale du film, comme dit Romain Duris.
Ouais, c'est la fondation. Enfin, c'est hyper important. Et après, on voulait pas, en effet, faire un catalogue de morceaux ultra connus ou, à l'inverse, hyper pointus. Il fallait faire un mix entre ceux qui racontent vraiment l'époque et le talent de Vernon, son pouvoir de dénicher des morceaux et qui s'accorderont, qui réveilleront les gens qui croisent, et aussi faire appel à une mémoire collective et avoir le plaisir d'écouter un Janis Joplin qui est beaucoup plus connu, mais on avait envie aussi de ce plaisir-là.
Ou Cambodia de Kim Wine. Ça, c'était difficile. Coup de cœur, oui, pourquoi? Parce que c'est un moment où Vernon Subutex, c'est un moment important pour lui parce qu'il doit mixer chez un trader et donc possiblement être logé dans des bonnes conditions alors qu'il est à la rue. Et donc, l'enjeu de ce premier titre était compliqué, y compris pour vous, à trouver?
Très compliqué. C'est un des morceaux que j'ai mis le plus de temps à trouver, je crois. Comme il fallait, en un morceau, raconter le talent de ce DJ qui n'est pas comme les autres. Il fallait trouver un truc insolite qui fasse danser les filles, et pas n'importe quelle fille. Les filles qui sont invitées chez ce trader cocaïnomane, donc des mannequins jeunes. Donc, qu'est-ce qui fait danser les filles au premier morceau sans que ça soit le tube que tout le monde mettrait? Et qui fasse appel à un truc de nostalgie collective aussi, puisque c'est Vernon. Il n'allait pas mettre les vierges. Personne serait allé danser, parce que c'est pas la génération. Je voulais pas qu'il mette non plus un truc trop, trop mainstream. Et donc, on a cherché. Ça devait être Rod Stewart au début, puis on n'avait pas les droits. Et avec le superviseur musical, Jamie Herlet et Mathieu Siboni, on a écouté des trucs et on ne trouvait pas, quoi. C'était dur. Et en fait, j'ai pensé à Kim Wilde, qui est un morceau, moi, qui me fait danser et qui me fait pleurer en même temps. Enfin, je sais pas, il me touche, ce morceau. Tu l'aimes bien, toi?
Voilà, c'est passion.
Enfin, une espèce de... C'est très fille, je crois. C'est très nostalgique et t'as envie de te lever, quoi.
Diane, elle a une musique. Elle écoute pas vraiment de musique.
Si, on la présente sur Meudonnet. Un bon rock bien vénère. Après, elle n'écoute pas de musique. Elle en écoute une fois, c'est Chavala Vargas, quand elle est dans l'épisode 9, au fond du trou. Et c'était dans le roman. Ça, c'était vraiment... J'ai pris ce morceau qui était cité, dans cette scène en particulier. Et sinon, non, elle n'écoute pas. Mais comme on a essayé, en général, que la musique soit diégétique, c'est-à-dire c'est Vernon qui la met, c'est Vernon qui la choisit. Mais après, elle devient extra-diégétique, ça devient la musique de la série. Donc souvent, c'est Vernon qui a lancé un Sonic Youth, par exemple. Et après, on est en moto avec la hyène sur le même morceau. Il fallait trouver une musique qui allait aux deux.
La hyène, c'est un peu la grande méchante du film. En tout cas, c'est au début.
Oui, c'est la pirate, c'est la mercenaire.
C'est une pure mercenaire. Mm. Voilà, ça, comment vous la décririez? C'est la seule qui est pas trop nostalgique, finalement.
Non, elle vit selon ses propres règles et elle jouit de ce qu'elle a conquis, c'est-à-dire son rapport de dominante avec les autres, avec le monde, son plaisir de mettre des grosses mandales. Non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est quelqu'un qui a pas peur de sa force, au contraire, qui s'appuie sur sa force pour... faire sa place dans le monde.
Celui qui défonce, c'est celui qu'on écoute. Règle du monde moderne.
C'est une belle devise.
Pour 500 euros, je démolis un film. Pour le double, je pourrais une réputation. Et puis si t'as vraiment de l'argent, je peux vraiment ruiner la vie de quelqu'un. Je suis une sorte de dieu, 2.0. Toi, tu fais quoi?
Ah, moi, je viens d'être embauchée pour faire l'inverse, en fait. Pour découvrir des nouveaux talents sur Internet. Ouais. Pour créer une nouvelle série avec Laurent.
Anaïs, tu vas voir Géraldine, s'il te plaît, qu'elle te montre ton bureau. Je crois qu'ils ont fini de le débarrasser.
Ah, ok. Bah, à plus tard.
Mais depuis quand tu débarques directement ici, toi?
Je sais pas, call me, c'est urgent, j'ai besoin de toi. Ça s'appelle des frais de déplacement, ça, hein?
Ouais, enfin, l'urgence, c'était pas la petite nouvelle.
Bah, j'imagine.
En même temps, si t'es séduite, moi, j'en ai rien à foutre, hein. Je veux que tu ailles au showcase et que tu fasses taire ce connard.
Ah oui, il en a gros sur le cœur, on dirait.
Non, mais c'est un malade, lui, hein. Il m'en veut pour un film qui s'est pas fait, tu vois, le truc banal. Mais le mec est d'une rancune, mais hallucinante, quoi. Alors, je sais pas trop ce qu'il a sur moi, ce qu'il croit avoir sur moi. Mais je préfère anticiper, voilà, c'est ça.
Ça sort de mon rayon d'action habituel.
Ouais, mais tu vas trouver, écoute, la liste est longue, là. Pédophile, scientologue, enfin, tu fais ce que tu veux, moi j'en ai rien à foutre. Mais il faut que ce soit radical, d'accord? Faut que ça l'empêche de se répandre devant la presse après son concert. C'est ça qui est important.
Ça c'est la hyène, vous, Céline Salette, face à votre employeur, le producteur Laurent Lucas. En vous écoutant, là, je me disais qu'elle était presque en avance sur son temps.
Ah oui,
c'est la reine des fake news, en fait.
Oui, bien sûr, oui. Et puis surtout, elle a la morale de son époque, en tout cas. Enfin, je ne sais pas si elle est en avance, mais en tout cas, elle a la morale de son époque, ouais.
Elle est surdimensionnée, presque,
bien
face
sûr.
À Vernon Subutex.
Bah oui, elle est comme mythologique.
C'est une super héroïne.
Oui, bien sûr. Bah, elle a... On n'attribue pas ses caractéristiques à une femme normalement, ni à un personnage féminin.
C'est là que c'est un acte féministe de la part de Virginie Despentes.
Exactement.
C'est, normalement, ces rôles-là, c'est des hommes.
C'est ça. Normalement, le rôle de la. Donc, je vais le mettre au féminin, hein, séductrice, rentre-dedans, violente.
Du mauvais côté.
Ouais, du côté obscur de la force, et ça, c'est, normalement, c'est pas les femmes.
Et qui va, c'est la trajectoire qui est la plus, enfin le changement de trajectoire le plus important dans la série, parce qu'elle par l'amour, parce qu'elle va rencontrer Anaïs, parce qu'elle va rencontrer Vernon et cette communauté, qu'elle va être touchée par ça, elle va changer complètement et choisir la lumière et voilà et vivre cette rédemption. Ça, normalement, ça arrive que aux héros masculins, ça.
Et Céline Salette, vous l'avez trouvé comment, la hyène? Parce que même votre timbre de voix, j'ai l'impression qu'il est un peu baissé. Et vous avez dû...
Ben, c'est ça, c'est exactement le geste que vous faites. C'est-à-dire, c'est comme un muscle, hein. Il fallait quand même bien pomper sur le sur la pédale pour faire gonfler le truc. Et Cathy m'a beaucoup aidé là-dessus, je l'ai beaucoup dit, mais c'est vrai. Hein, c'était pas tous les jours évident d'arriver très très gonflé, gonflé à bloc du truc. Donc il y a plein de fois où elle m'a... pomper un peu sur la pédale pour non mais c'est vrai pour faire que ce personnage soit dans sa dimension monstrueuse détendue, je veux dire monstrueusement détendue, quoi, voilà, fallait être monstrueusement détendue
et avoir une sorte de distance un peu par rapport à tout, aux gens, aux choses,
ouais.
Toujours l'air de pas y toucher avec ce regard d'acier, Céline, qui était déjà là.
Et du coup, elle a presque redécouvert son personnage, Virginie Despentes, qu'on lui avait montré la série pour la première fois.
Non, elle l'a pas vu, je crois.
C'est pas ça.
Elle l'a pas vu.
Encore. Non.
Non. Elle va le voir.
Comment ça s'est passé? Elle vous a donné carte blanche? Elle avait une petite idée déjà sur le casting?
La première fois qu'on s'est vu, le jour où elle m'a proposé l'adaptation, on a parlé tout de suite casting. On a rêvé sur qui jouerait Vernon, qui jouerait Layenne. Et en fait, on avait vraiment les mêmes envies sur Céline et Romain. Vraiment. Mmh. Et ensuite, elle m'a laissé carte blanche, oui, parce qu'elle n'avait pas du tout envie d'écrire la série. C'était acquis. Elle écrivait son tome 2, puis son tome 3. Et même pas une idée de parfois de lui montrer les scénarios, etc. Elle préférait voilà, que ça soit très clair, qu'on dissocie l'œuvre, son œuvre, avec la série. Donc, c'est une distance qui était bien, hein, franchement. Pour moi, c'était plus facile après aussi de trouver cette liberté.
Et Romain Duris dans le rôle de Vernon Subutex, ça peut paraître étonnant. Enfin, en tout cas, il ne ressemble pas physiquement à la description sommaire qui est faite dans le livre. Dans le livre, il est grand, je crois,
il a les yeux bleus. Ben, lui, il a les yeux verts. Et, non, mais c'est marrant parce que la veille du tournage, alors qu'on avait fait plein d'essais de blousons, de cheveux, de poils, et on était prêt à tourner, et il m'a appelé, il m'a dit « Mais est-ce que tu veux que je mette des lentilles bleues ?» Je trouve ça hyper touchant. Je dis, mais jamais, jamais. C'est une adaptation. Non, on ne cherche pas à coller pile poil aux descriptions. Il y a autant de Vernon que de lecteurs. Tout le monde a une idée. Voilà, à la lecture, l'imaginaire se crée des contours un peu flous, en plus, qui vont évoluer au fur et à mesure de la lecture. Et donc, c'est vrai que décider qui va jouer, c'est figer cet imaginaire. C'est le propre du cinéma, quoi. C'est de la photo. Mais c'est une adaptation, donc non, surtout ne mets pas de lentilles bleues, je veux tes yeux, ton regard, et surtout pas d'allergie pendant 68 jours.
Ah, tu m'étonnes. Pas de colire, pas voilà. Pas de merde, j'ai perdu ma lentille, où elle est? Non. tellement bonne décision.
Est-ce qu'on peut imaginer une deuxième saison de Vernon Subutex?
En fait, on l'a vraiment construit comme une mini-série, hein, parce que déjà, le tome 3, moi, je l'ai lu quand il est sorti, on était déjà quasiment en prépa, donc on a écrit les scénarios de cette saison, pas du tout dans une optique de faire une suite avec le tome 3, puisqu'on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Donc c'est vraiment, moi, j'aime beaucoup cette fin, qui est une note d'espoir, assez poétique, et voilà, c'est un vrai choix de finir comme ça, donc moi, j'aime bien que ça s'arrête là. Voilà, c'est construit comme ça.
Céline Salette, vous jouez Layenne, on le rappelle, dans Vernon Subutex. C'est pas la première fois que vous jouez dans une série et dans une série Canal, puisqu'on vous avait vu dans Les Revenants. En tant qu'actrice, c'est un vrai plaisir, justement, d'investir un personnage sur la durée, de pouvoir le travailler par rapport à... Est-ce que vous compareriez la série et le cinéma entre le marathon et le sprint? Enfin, il y a le côté où on donne tout pendant une heure et demie au cinéma, et où la série, ça vous offre une possibilité d'amplitude de
ouais,
rôle.
C'est vrai. En tout cas, il y a beaucoup. Moi, j'avais énormément de plaisir à retrouver ce personnage. Et aussi, en fait, comme les tournages sont aussi des expériences au présent, hein. Genre, c'est pas seulement, on n'est pas seulement en train de fabriquer un objet pour plus tard. On est aussi en train de vivre une expérience collective ensemble. Et là, en l'occurrence, Cathy, elle a vraiment fait cette alchimie dingue, parce que quel défi incroyable de ces 4 mois et demi de tournage. 4 mois et demi ?
4 mois.
4 mois. À blinde, c'est-à-dire sans horaire, en allant chercher les scènes. Donc s'il faut dépasser 2 heures, on dépasse 3 heures. Donc je veux dire, tout le monde reste là jusqu'à ce que ce soit fini. À 30 ou 40, avoir vécu ça, retrouver cette com, ils ont formé une mini-famille, sans déchirement, sans violence, dans l'harmonie, c'est quand même un défi de malade. Je veux dire, avoir été capable de créer cette communauté-là, la communauté des gens qui ont fabriqué cette série, et qui ont vraiment pris leur pied à le faire, c'est balèze.
Ouais, parce qu'on était tous dans un état d'esprit, et toi, et tous les acteurs, et l'équipe, d'avoir envie d'être à la hauteur du roman. Donc il y a une espèce d'investissement, de sincérité, et puis on avait choisi vraiment dans une immédiateté, pas du tout avec beaucoup d'heures de technique. On était très léger et très tout pour le jeu, quoi. pour le jeu, avoir le temps de reprendre et d'enchaîner les prises, ne pas avoir cette phrase de « on se retourne » qui fait qu'on perd trois quarts d'heure de technique, de projo. Et donc là, non, on était vraiment dans un truc d'énergie très, très tous ensemble et une envie commune de chercher, de tenter. Voilà. Le chef-op, David Chiesalé, il a choisi des objectifs des années 50 qui laissent passer la lumière. Et donc, on cherchait des accidents, d'avoir trop de lumière, d'être ébloui, comme quand on est dans la rue, la lumière parfois est agressive. On cherchait tous ensemble, et les acteurs et la technique, un truc d'aspérité, de surprise. Et on s'est mis dans un état de disponibilité vraiment tous, quoi. Et ça, c'était assez rare et assez beau.
Une espèce de transe collective, hein, même on peut le dire, hein, c'est-à-dire que
non mais c'est vrai comme dans le comme dans le livre,
mais un peu,
mais on a
comme
mais
dans
après
l'histoire.
On a essayé et on a touché du bois du bois pour y arriver, on a touché du doigt ce qu'on évoque, c'est-à-dire le collectif peut-être retrouvé à la fin, quoi.
Merci Cathy Vernet, merci Céline Salette.
Merci à vous.
Vernon Subutex, donc sur Canal Plus à partir du 8 avril. Tous les cinémas du monde, on tire le rideau pour cette semaine. Au micro, Sophie Torlotin
et Elisabeth Lequéré. À la réalisation, Fanny Renard.
Retrouvez-nous la semaine prochaine, on va parler des gilets jaunes, comment filmer sur les ronds-points avec François Ruffin, Gilles Perret et Antonin Perret-Jadko. Et d'ici là, bonne semaine à tous.
Les cinémas du monde.